Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent en première partie « Séjour d'un pèlerin en France ». Il s'agit de lieux de pèlerinage dans la ville de Paris et je me suis rendu au Mont-Saint-Michel.
Il faut qu'elle respire. C'est comme un petit bébé qui vient au monde. Et on a vu ça parfois, ou on l'a entendu plutôt dans des films, j'ai pu le voir. Lorsque le petit bébé sort, il pleure. Et parfois, le médecin lui tape dans le dos pour que la vie prenne le dessus. Eh bien, c'est cela, une fondation. Une fondation, c'est un petit bébé qui arrive. Et il faut lui donner toute la chance pour qu'il puisse respirer et prendre son envol. Alors dans l'Église aussi, nous avons cette responsabilité de respirer, oui, mais de respecter également ces naissances, et les stimuler lorsqu'elles arrivent, les encourager, parce qu'elles sont pour vous, elles sont pour moi. Et si nous les refusons, eh bien, nous refusons Jésus. Bien sûr, il faut du discernement. Évidemment, il faut que cette fondation soit bâtie sur le roc, en communion avec Jésus, en communion avec l'Église. Et il faut du temps. Il faut laisser le temps au temps. Parce que l'enfant ne devient pas un petit enfant et un adolescent et un jeune adulte du jour au lendemain. Ce sont des années de respiration qui vont donner le profil de ce qu'il viendra, de ce qu'il deviendra. Alors ces évangiles nous parlent, et ici particulièrement au Mont-Saint-Michel, où nous avons vécu quelques heures dans une fondation récente, nouvelle, mais qui porte des fruits. Hier, les frères avaient la permission de nous parler. Ils nous ont dit, nous avons des frères. Ils ne s'en vantent pas, c'est nous qui avons posé la question. Nous avons des frères en Italie. Nous avons des frères à Montréal et des sœurs. Nous avons des frères ici en France. Bon, dans telle région, dans telle autre région. Je pense qu'ils ont nommé aussi la Belgique et d'autres pays. Ils vont continuer de grandir. Oui, ils ont des épreuves. Oui, ils sont émondés. L'autre jour, lorsque nous sommes arrivés, nous avons été témoins d'un échange avec un frère qui parlait au téléphone avec une autre personne. Il ne faut pas être devin pour deviner simplement qu'il est en train de parler à quelqu'un qui a déjà fait partie de la fraternité. C'est ce que j'ai ressenti à travers les paroles d'exhortation qui étaient simples, les paroles où il demandait à l'autre de bien réfléchir ou de bien penser ou de lui dire « non ». Ce n'est pas ce qui s'est dit. Je comprends, mais veux-tu, s'il te plaît, tourner la page? Vivre ta vie, respire ailleurs. Tu es peut-être passé par ici, mais pour aller ailleurs. Ça aussi, nous l'avons dans ces communautés nouvelles dans l'Église. et elles portent leurs fruits. Alors ce sont ces enseignements que Jésus nous donne aujourd'hui dans cette Eucharistie. Nous l'en remercions. Je voudrais quand même dire quelques mots sur Saint-Michel, l'archange Saint-Michel. C'est avant la création de notre monde, de notre humanité, il y a toute une création céleste, des êtres célestes que Dieu, dans son amour et dans sa liberté, va créer. Les êtres célestes, les anges, les archanges, les principautés, tous ces êtres spirituels que Dieu a créés, il les a aussi créés libres. Et il y a eu une fracture entre Lucifer et Dieu. Lucifer n'a pas accepté le plan divin qui était de nous créer à son image et à sa ressemblance et de nous associer à son grand mystère de gloire. Il y a eu une cassure avant la fondation du monde. Et là, il y a un combat. C'est l'Écriture qui nous le dit, qui nous l'enseigne. Il y a eu un combat entre Lucifer et Saint-Michel. Et c'est l'archange Saint-Michel qui va triompher. Michel veut dire « comme Dieu ». L'archange Saint-Michel va défendre ce que Dieu veut, la volonté divine, pour le plan divin qui va s'exercer contre Lucifer et tous les autres anges qu'il va entraîner dans son orgueil, dans sa démesure, pour se transformer en Lucifer, c'est-à-dire le Satan, le père du mensonge, le diviseur. Alors ici, au sommet de l'église abbatiale, il y a une pointe, une flèche sur laquelle Saint-Michel est placé. Et il y a son épée qui rappelle ce combat et sa victoire, et il y a aussi la balance où il est capable de mesurer le poids des êtres. Est-ce que la balance penche du côté du bien ou si elle penche du côté du mal? Eh bien, il vient aussi dans notre vie nous apprendre l'équilibre, nous apprendre à détecter d'une certaine manière les influences maléfiques. Le démon, il vient nous protéger et combattre dans le monde. Alors demandons à Saint-Michel-Archange d'être notre protecteur. D'ailleurs, il y a cette grande prière de l'Église qui nous protège des astuces de l'ennemi. Et je vais terminer avec cette prière que les moines récitent à la fin de la célébration de la messe. Nous appelons cela un tropère à Saint-Michel. Saint-Michel, prince des anges, toi qui te tiens auprès du peuple de Dieu, aide dans le combat contre les forces du mal. Toi qui as su t'opposer à l'adversaire dans le ciel, en plaidant contre l'accusateur de nos frères, aide-nous de ta prière à l'heure des tentations. Intercède pour nous, Saint gardien de Jérusalem. Amen.
Les carnets du soir se poursuivent en ouvrant un autre volet, dans le rôle de la fille de la Samaritaine, Lorraine Côté, sous la direction de Jacques Leblanc.
La rose bleue. 60 ans après Jésus-Christ. 13 pétales. Texte, Denis Veilleux. Aujourd'hui, la fille de la Samaritaine. Narration, Lorraine Côté.
J'ai quitté la ville de Sichem autour de mes 15 ans, en boitant. Mon histoire commune, à vrai dire, est de celles qui font que la vie prend une direction au lieu d'une autre. Je me suis toujours demandé si Dieu traçait chaque jour de nouveaux chemins pour que nos folies se dispersent à travers le monde. Quelle enfance ai-je eue avec ma mère et ses hommes? Déjà toute petite, je devais chercher mon père dans le visage de ceux qui défilaient les uns après les autres comme des émigrés. L'instabilité de ma mère faisait que tous ses maris débarquaient chez nous 2 ou 3 ans, se laissaient nourrir, laver, et plus encore, sans la moindre honte, comme si c'était normal. De fait, ils ne faisaient rien sinon se laisser vivre. Les choses se terminaient immanquablement mal. Ma mère faisait une crise, cassait tout dans la maison, et elle flanquait sur le pavé ces parias que le soleil avait rendus paresseux. Elle jurait alors qu'elle était mieux seule, jusqu'au moment où elle se laissait enjôler par un autre qui reprenait le rôle de celui qui venait de nous quitter. Des noms, j'en ai plein la tête. Papa Ishmaël, Papa Baruch, Papa Urias, Papa Yaël, Papa Jonas. De tous ceux-là, c'est Jonas que j'ai le mieux apprécié. J'étais plus grande. Certes, il était aussi peu vaillant que les autres, mais il nous aimait bien, mon frère et moi. Jonathan était mon cadet de 2 ans. C'est lui qui m'a causé ma blessure au pied. Oh, je sais bien qu'il ne le voulait pas, mais à force de ne pas vouloir écouter, on finit par vouloir faire à sa tête. Toujours est-il qu'il était obsédé par les soldats romains. Ces derniers venaient faire leur fanfaron quelques fois par année à Sichem. Ils arrivaient sans avertir, faisaient leur démonstration de force en criant et, les épées en l'air, tournaient autour du puits de notre aïeul Jacob avant de repartir comme ils étaient venus. C'était toujours comme ça. Et mon frère, lui, voulant les imiter, se fabriquait une épée de fortune avec 2 bouts de bois dans l'intention d'aller ensuite épater les autres gamins sur la place. Parfois, il en faisait autant dans la maison. Nous lui crions tous de cesser ses folies. Il faut croire que lui aussi avait la manie de vouloir tout casser. Un jour, allez savoir comment, il s'est procuré une véritable épée. Jonathan est entré dans notre maison avec cette lourde épée et a commencé à se donner en spectacle. L'arme était beaucoup trop lourde pour lui, il n'avait que 10 ans. Croyant sans doute qu'il avait entre les mains ses 2 bouts de bois, il a tenté de faire sa parade habituelle. Le saccage qu'il nous a fait dans la maison, c'était horrible. Maman lui a crié de déposer son épée au sol, il s'est entêté encore et encore, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne pouvait la manœuvrer à son goût. Contrarié, il l'a laissé tomber sans se préoccuper de savoir où elle atterrirait. C'est mon pied gauche qui l'a reçu. Bien évidemment, j'ai hurlé, ma mère aussi, et Jonathan a détalé de la maison. Je boite depuis ce jour. Mes 15 ans venus, j'ai pris le chemin d'une autre ville. Je ne pouvais plus vivre avec ma mère et mon frère qui ne pensaient qu'à se battre. La leçon n'avait pas porté fruit, et ma mère le surprotégeait. Une fois, j'ai senti maman heureuse. Une seule fois. Et ça n'a pas duré. Pourtant, comme elle a pu nous parler et reparler par la suite de cet homme qui lui avait tout révélé de sa vie. Tout. Comme ça. Elle s'était rendue au puits ce jour-là, selon son habitude. Les autres femmes y allaient le matin. Mais ma mère, redoutant les yeux indiscrets ou accusateurs, préférait le faire vers midi. Elle était certaine que personne ne sortirait pour aller puiser de l'eau, tant la chaleur nous tombe dessus à cette heure-là. C'est là qu'un inconnu est venu à elle et lui a demandé de l'eau. Il semblait épuisé. Après ces nombreuses expériences décevantes, le premier réflexe de ma mère a été de se méfier. Que voulait-il au juste ce juif? D'abord, un homme n'adresse pas la parole à une femme, surtout quand elle est étrangère. Ensuite, un juif n'aborde pas ainsi un samaritain, et vice-versa, tout le monde le sait. Mais cet homme, comme elle nous le répétait, a eu le don de l'intriguer. Imaginez donc, il lui a dit qu'à son tour, il pourrait lui donner à boire. Ma mère a trouvé sa remarque incompréhensible. Comment, les mains vides, peut-on offrir à boire à quelqu'un? Voyant que malgré cela, l'homme semblait inoffensif et fiable, elle a commencé à parler de nous, les Samaritains, puis des gens de Jérusalem, et comme ça, elle a fini par parler de Dieu. La réponse de l'inconnu a été plus déroutante encore. Au lieu de la relancer sur le sujet, il lui a dit quelque chose que ma mère a encore moins compris. « Les montagnes, si saintes soient-elles, seront remplacées par le cœur. » Comme ma mère s'apprêtait à lui tourner le dos, alors il s'est montré un peu plus clair. « Oui, lui a-t-il dit, c'est par le cœur qu'on aime Dieu. » Pas besoin de montagnes, de puits, d'éclairs, de tonnerres et de visions. Ma mère, qui croyait aux visions des prophètes, l'a laissé parler, jusqu'à ce qu'il lui demande carrément d'aller chercher son mari. Là, elle a eu comme un choc, et elle lui a répondu qu'elle était seule. Du tac au tac, il a répliqué « Tu as eu cinq maris, et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. » Complètement renversée de ce qu'il savait d'elle, et qui sait de nous aussi, ma mère a laissé échapper une de ses deux cruches, sentant sûrement qu'elle avait besoin d'être rassurée et s'est penchée vers elle avec infiniment de douceur. Elle voyait bien qu'il ne jouait ni au juge, ni au savant, mais qu'il lui disait exactement ce dont elle avait besoin. Oui, et elle nous l'a répété souvent. Ce n'était pas une histoire de montagne, de puits, d'eau que l'on boit tous les jours qui nous faisait vivre, mais le Messie. Je vous le dis, elle y croyait au prophète, elle. C'est pour cela qu'elle lui a demandé où il était, ce fameux Messie qui donnait à boire. L'homme lui a répondu, « c'est moi qui te parle. » Là, elle a carrément failli perdre conscience, et il s'en est fallu de peu qu'elle ne casse son autre cruche. Il l'a fait s'asseoir près de lui et lui a parlé longuement de l'amour de Dieu qui fait surgir dans chaque cœur humain une fontaine pour que l'on ne court plus en tous sens chercher des bonheurs qui nous assèchent. C'est vrai qu'elle était heureuse, maman, lorsqu'elle nous racontait cette rencontre. Elle nous disait qu'on ne pouvait vivre une telle rencontre qu'une fois dans une vie. D'ailleurs, tout le village l'a su. Un peu plus tard, moi-même, j'ai eu l'occasion de le croiser, le Messie. Comme j'aurais aimé qu'il soit mon père. Il était beau, assez grand, et avait des épaules qui pouvaient nous porter, mon frère et moi. À partir de ce jour, ma mère n'a plus jamais voulu d'autre homme dans notre maison que mon frère. Moi, je croyais toujours qu'un nouveau finirait par s'installer chez nous, mais non. Un jour, elle a décidé de m'envoyer chez sa sœur. Cette dernière avait sept bouches à nourrir depuis que son mari était mort empoisonné. J'ai accepté d'aller l'aider avec enthousiasme, bien contente de m'évader de la maison. Je n'avais pas sitôt fait mon bagage que mon pied s'est mis à m'élancer terriblement. Pendant des jours, j'ai été au plus mal. On a même cru que l'on me couperait le pied. Grâce à ma mère, j'ai pu éviter l'amputation. Désespérée de constater l'état de plus en plus inquiétant de ma jambe, un bon matin, ma mère s'est résolue à aller chercher de l'eau au puits de notre père Jacob. À son retour, elle a versé doucement un peu du contenu de sa cruche sur moi, tout en priant. « Mon Dieu, je ne suis pas sur une montagne sainte, ni dans le temple à Jérusalem, ni sur notre mont Garizim. Je suis ici, près du puits de mes ancêtres, où les moutons ont bu et survécu. Au nom de ce Messie qui m'a fait tant de bien et délivré mon cœur de la soif, je te demande de laisser son pied à ma petite fille. » Sa prière a déclenché nos larmes, et mon frère s'est joint à nous, cachant de ses deux mains son visage. Le lendemain, j'étais assez bien pour partir. Aujourd'hui, j'ai vieilli. Jonathan a été le premier à disparaître. Il s'était enrôlé auprès des Zélotes pour défendre notre patrie des stupides envahisseurs. Il a péri par l'épée. Moi, je vois tous les jours les enfants de mes cousins et cousines. À présent, ce sont les petits qui me prennent par la main pour m'aider à marcher. Ma mère est venue me visiter une seule fois après mon départ de la maison. Elle avait tellement vieilli. Elle est décédée 2 mois plus tard, en se rendant au puits, toujours à midi.
Vous venez d'entendre « La fille de la Samaritaine », la 12e d'une série de 13 émissions intitulée « La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales », texte et musique, Denis Veilleux, narration, Lorraine Côté, à la technique, Yannick Caron, réalisation, Jacques Leblanc.